Bonjour et bienvenue à l'écoute de Vitry Le Mensuel, numéro 224, février 2025, mensuel municipal d'information locale de la ville de Vitry-sur-Seine. Ce service vous est offert par la ville de Vitry-sur-Seine. Plage 1 sommaire, plage 2 éditorial, plage 3 événements, plage 4 sensibilisation, plage 5 citoyenneté, plage 6 solidarité, plage 7 aménagement, plage 8 culture, plage 9 dossier logement à indigne. Plage 10 portrait, plage 11 bon plan, plage 12 chronique, plage 13 zoom service public, plage 14 itinéraire, plage 15 tribune des groupes. Directrice de la publication Fatmata Konaté, rédacteur en chef Hugo Derianic, secrétaire de rédaction Christine Lebras, rédaction Majda Abdella, Marjorie Andrès, Paul Éroard, Catherine Acouboisise, Naya Smarmakni, Clément Aulnet, Willy Richert, Nina Senoyer, Weilian Zou. La reproduction de tout article est interdite sans l'accord de la rédaction. Ville de Vitry-sur-Seine, 2 avenue Youri Gagarine, 94 407 Vitry-sur-Seine-CEDEX, téléphone 01 46 82 80 00. Réalisation sonore association Donne-moi tes yeux, courriel contact@donne-moi-tes-yeux.fr. L'éditorial de Pierre Belliocq, maire de Vitry-sur-Seine. L'éducation, seule arme pour construire un monde plus juste. Vous l'avez peut-être remarqué, la ville a quitté le réseau social X, anciennement Twitter. Cette décision mûrement réfléchie, j'ai moi-même clôturé personnellement ma page courant 2024, nous semble la seule réponse digne d'intérêt face aux dérives de ce réseau social. Pour nous, les citoyens ont besoin d'informations précises et rigoureuses pour ne pas être trompés et instrumentalisés. Les récentes dérives d'Elon Musk, propriétaire de ce réseau, et sa nomination au gouvernement américain révèlent un inquiétant glissement vers une prise de pouvoir mondiale d'une oligarchie des milliardaires contrôlant les médias et donc l'information. Nous ne pouvons cautionner par vos impôts cette dérive autoritaire, porteuse de haine, allant à l'inverse des valeurs de solidarité et de paix défendues par votre ville. Les erreurs des hommes politiques ne doivent pas permettre à une oligarchie de milliardaires de s'asseoir sur la démocratie populaire indispensable au progrès de l'humanité. Cela n'est pas sans conséquence sur notre contexte national. Le budget communal se construit dans le flou des instabilités gouvernementales qui nous obligent à des contorsions dommageables pour tous. Si nous restons combatifs et déterminés à défendre vos intérêts, nous nous devons de faire appel à votre mobilisation pour alerter sur les dangers des décisions pouvant être prises. Ces quelques millions d'économies nationales ont une répercussion forte localement sur le développement de notre ville. Pour être plus précis, ne pas pouvoir construire des écoles, c'est renoncer aux logements, aux routes et aux équipements nécessaires pour répondre aux besoins des habitants et faire tourner l'économie de notre pays. Les contraintes budgétaires nous obligent à différer la construction d'une deuxième école, mais surtout la construction de solutions pour nos habitants. Là où nous voulons construire des écoles, le gouvernement achète des missiles. Là où nous construisons des logements abordables, ils enrichissent toujours plus les milliardaires. Nous ne partageons pas ce choix et nous continuerons de nous mobiliser pour l'humain d'abord. C'est pourquoi je vous propose de nous retrouver lundi 3 mars à l'hôtel de ville afin de réfléchir ensemble à notre action en direction du gouvernement pour gagner des moyens décents pour nos enfants autour d'un slogan fort, des écoles plutôt que des missiles. Ensemble, nous irons plus loin. Événements, débat d'orientation budgétaire, arbitrage et moratoire. Avant le vote du budget primitif 2025, le conseil municipal va débattre des orientations budgétaires le 12 février. Des échanges qui s'inscrivent dans un contexte économique fragile et incertain, alors que le projet de loi de finances du gouvernement n'est toujours pas voté. Soucieuse de préserver ses services publics et de maintenir son rôle de bouclier social pour les Vitriots, la ville s'apprête à des arbitrages difficiles et se mobilise pour alerter l'État. C'est un moment incontournable de la vie politique locale et une obligation légale avant le vote du budget. Le débat d'orientation budgétaire permet chaque année au conseil municipal d'échanger autour des politiques publiques pour l'année en cours et pour celles à venir. Des discussions qui vont permettre d'aborder de multiples sujets, parmi lesquels la dette de la ville. Obligatoire pour préserver la capacité d'investissement de la ville et le développement de son territoire, celle-ci reste stable, environ 160 millions d'euros, grâce à une gestion active et à une capacité de désendettement maîtrisée. L'évolution des dépenses liées aux agents communaux sera également à l'ordre du jour. Le budget 2025 va ainsi coïncider avec la revalorisation du RIFSIP, le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale, une mesure bienvenue pour les agents, mais non compensée par les directives gouvernementales. La revalorisation des cotisations patronales à la CNRACL décidée par l'État pourrait, quant à elle, coûter 1 million d'euros à la ville pour financer le déficit des caisses de retraite du privé. De plus, l'élaboration de ce budget 2025 a lieu dans un contexte de forte incertitude, causée notamment par l'instabilité politique nationale et le report du projet de loi de finances. Malgré ce contexte, la ville a l'obligation de voter un budget à l'équilibre. Elle va ainsi procéder à des arbitrages importants pour stabiliser ses dépenses, tout en maintenant une politique volontariste en faveur du service public et des vitriaux. La ville compte bien jouer son rôle de bouclier pour sa population. Aucune hausse d'impôts et de tarifs municipaux n'est ainsi prévue. Elle étudie plutôt un report ou un étalement de certains investissements. C'est notamment le cas de la création du futur groupe scolaire de la ZAC Seine-Gare, avec un budget d'investissement estimé à 20 millions d'euros et 1,8 million d'euros annuels de coûts de fonctionnement. Le projet ne peut être absorbé pour le moment par les finances locales. La ville fait en effet face à une importante crise du logement qui entraîne une hausse des coûts de construction. À cela s'ajoute une crise économique majeure qui rend difficile la venue d'entreprises dans le cadre de l'OIN des Ardouanes. Là encore, l'impact est fort pour les finances communales avec un manque de recettes fiscales à la clé. Dans ce contexte, le gel prévu par l'État de la dotation globale de fonctionnement, synonyme de baisse pour la collectivité, interroge. Le précédent projet de loi de finances, avant son annulation, prévoyait également 5 milliards d'euros d'économies pour les collectivités les plus importantes, dont Vitry fait partie, rappelle Sarah Taillebois, adjointe au maire déléguée aux finances et au budget. Des choix qui posent question alors que le budget de l'année est, lui, régulièrement augmenté chaque année. Plutôt que de mettre 5 milliards d'euros pour construire des missiles ou pour exonérer de charges les plus riches, donner 5 milliards d'euros aux collectivités pour leur permettre de continuer à développer le pays, interpelle Pierre Belliocq, le maire, qui lance un moratoire à l'État pour amorcer une réflexion commune. La ville se mobilise ainsi pleinement en faveur du service public et lance la campagne des écoles plutôt que des missiles avec une pétition et une réunion avec les vitriaux le 3 mars. À 18h30 à l'hôtel de ville. Posez vos questions au maire lors d'un Facebook Live le 18 février à 18h30. Question-réponse, Sarah Taillebois, adjointe au maire en charge des finances et du budget. Qu'est-ce que le débat d'orientation budgétaire? Le débat d'orientation budgétaire est un moment d'échange autour des grandes orientations politiques pour l'année à venir, mais aussi pour la suite à travers des engagements pluriannuels. Il est important d'en débattre et d'associer la population, notamment à travers les conseils de quartier. Les demandes des habitants sont ainsi prises en compte avec un budget dédié qui est pérennisé. Cette année, le déficit de l'État s'élève à un montant jamais vu, ce à quoi s'ajoute une situation de forte incertitude liée à l'attente sur le projet de loi de finances du gouvernement. L'État réduit chaque année ses dotations aux collectivités, ce qui nous amène à des arbitrages budgétaires forts. Nous continuons à nous battre pour préserver nos services publics, entretenir nos équipements existants et les adapter aux enjeux de demain, tout en maintenant une capacité d'investissement. Notre priorité demeure l'accès à l'éducation et à l'égalité des chances. Certaines dépenses ne seront donc jamais remises en cause par l'équipe municipale actuelle. Sensibilisation. Prévention santé, vaccination, papillomavirus. Le centre municipal de santé organise une campagne de vaccination contre le papillomavirus auprès des élèves de 5e et de 4e n'ayant pas reçu de deuxième dose l'année dernière. Les vaccinations se dérouleront entre le 17 et le 31 mars dans les établissements scolaires. Deux documents doivent obligatoirement être fournis par les enfants, l'autorisation parentale et le carnet de vaccination. Chaque année en France, 6 400 cancers sont dus au papillomavirus, HPV. Recommandée avant le début de la vie sexuelle, la vaccination prévient jusqu'à 90% des infections à l'origine de cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, du pénis et de la gorge. Recensement, la campagne de l'INSEE se poursuit. La campagne 2025 de recensement organisée par l'INSEE se prolonge au cours du mois de février. Démarrée mi-janvier, elle se déroule jusqu'au 22 février. Pour rappel, les habitants des logements concernés ont reçu une lettre du maire pour les informer de la démarche et ont l'obligation de répondre au questionnaire. Les agents recenseurs recrutés par la commune leur remettent ensuite une notice internet, soit dans leur boîte aux lettres, soit en main propre, afin de se recenser en ligne en suivant les instructions. Des questionnaires papier peuvent également être remis. Le recensement est un outil essentiel pour établir la population officielle de chaque commune. Il fournit des statistiques et des informations pour comprendre l'évolution démographique du territoire afin d'ajuster les politiques publiques en conséquence et de répondre de manière adéquate aux besoins des habitants. Pour toute information sur le recensement, contactez la ville au 01 46 82 80 30. Conseil municipal, séance du 12 février. À 20h30, vous pouvez suivre les séances en direct sur les réseaux de la ville et les retrouver en intégralité sur vitry94.fr. Bénévolat Lire et Faire Lire. L'association Lire et Faire Lire recherche de nouveaux et nouvelles bénévoles pour mener à bien ses activités, pour transmettre le goût de la lecture et des histoires aux enfants et au public scolaire. L'occasion de profiter d'ateliers intergénérationnels et de partager de bons moments tout en stimulant l'imaginaire des plus jeunes. Informations et inscriptions sur lireetfairelire.org. Bénévolat, Maison des Vitriots. Le centre du quartier du Plateau, la Maison des Vitriots, cherche également des bénévoles pour participer à ses activités et animer ses ateliers, accompagnement à la scolarité d'élèves d'élémentaire les mardis et jeudis, mise en place d'ateliers couture ou peinture, échange de savoir, chacun peut s'impliquer selon ses possibilités et disponibilités. Plus d'infos au 01 71 80 69 50. Inscription, séjour printemps et été. Les inscriptions pour les séjours printemps 6-14 ans et les séjours été, réservés aux familles, sont en cours. Séjours culturels et linguistiques, à la mer ou à la campagne, il y en a pour toutes les envies. Du 3 au 12 février, sur vitry94.fr/vacances ou au secteur séjour en mairie. Citoyenneté. Conseil de quartier vers la restitution de l'Observatoire. L'Observatoire des conseils de quartier va prochainement rendre ses conclusions. La restitution de ce temps d'échange et de concertation avec les Vitriots aura lieu le 8 février, un ultime rendez-vous pour conclure plusieurs mois de riches réflexions. Cet observatoire a ainsi pris la forme de trois séances organisées dans différents lieux et à divers moments de la semaine pour permettre au plus grand nombre d'y prendre part. Les participants étaient réunis au cours d'ateliers thématiques pour amorcer une nouvelle dynamique autour des conseils de quartier et améliorer leur fonctionnement. Certains participants ont notamment travaillé sur la représentativité des citoyens de Vitry au sein de ces instances, afin de renforcer la diversité de leurs membres et permettre à toutes et tous d'y trouver leur place et d'y faire entendre leur voix. L'importance de mieux communiquer sur les conseils de quartier et de les rendre plus visibles était également au centre des préoccupations. C'est une démarche inédite pour répondre à de multiples enjeux et faire vivre la démocratie locale dans un esprit de collaboration, souligne Sandra Barry, conseillère municipale déléguée à la concertation de proximité. Cette dernière donne rendez-vous au Vitriot le 8 février pour ce nouveau moment de dialogue et de présentation des axes concrets d'amélioration à partir de vos retours. À 10h à l'hôtel de ville. Le mot de Sandra Barry, conseillère municipale à la concertation de proximité. C'est une démarche inédite pour répondre à de multiples enjeux et faire vivre la démocratie locale dans un esprit de collaboration. Saint-Valentin, hymne à l'amour. Pour la Saint-Valentin, la ville vous donne l'occasion idéale de déclarer votre flamme à l'être aimé en affichant vos messages dans l'espace public. Prenez votre plus belle plume et envoyez vos mots d'amour sur les posts dédiés Facebook @vitry-sur-Seine, Instagram @ville-de-vitry. Vos messages seront diffusés sur les panneaux lumineux répartis à Vitry le 14 février. À vos amours. Solidarité. Palestine, une trêve attendue mais fragile. Samedi 18 janvier, l'association Vitry 94 soutient au peuple palestinien. L'AV 94 SPP organisait un rassemblement pour célébrer l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 19 janvier et ouvrant la voie à l'aide humanitaire à Gaza. Une lueur d'espoir et le soulagement pour le peuple palestinien qui endure des bombardements destructeurs et incessants depuis plus de 15 mois. Cet accord exigé par la communauté internationale, nous l'attendions depuis longtemps, souligne Ahmad Dari, artiste palestinien, membre de l'AV 94 SPP. Mais il est très fragile, il y a encore beaucoup de tensions dans toute la région. Ce cessez-le-feu est la première étape d'un long processus pour mettre fin à la guerre. Elle prévoit la libération de 30 otages israéliens et de près de 1000 prisonniers palestiniens, essentiellement des civils de Gaza, femmes et enfants arrêtés après le 7 octobre. Une deuxième étape pourrait permettre la libération de prisonniers politiques plus anciens, parmi lesquels Marwan Barghouti, citoyen d'honneur de Vitry. L'association Vitriote poursuit quant à elle ses actions et soutient notamment 5 familles palestiniennes. Collecte de déchets alimentaires. À partir de février, de nouveaux équipements se déploient du côté de Vitry Nord. Il s'agit d'abris bacs pour collecter les déchets alimentaires, restes de repas, épluchures, coquilles d'œufs, mares de café, etc. Une collecte spécifique se met ainsi en place conformément à la loi. Les Vitriots vont recevoir prochainement un kit avec le matériel, biosseau et sac en papier pour apporter leurs déchets jusqu'au bac. Le déploiement se poursuivra sur la partie sud de la ville en fin d'année. Tous ces déchets seront désormais valorisés et transformés localement en gaz grâce à un processus de méthanisation afin de répondre aux enjeux de la transition écologique. Plus d'infos auprès de Grand Orly Seine-Bièvre au 0800 864 743. Espace public, travaux de voirie. Pour pérenniser les travaux réalisés dans le cadre du plan Vigipirate, la direction de la voirie procède à l'élargissement des trottoirs et à la suppression des places de stationnement aux abords de deux établissements. Sont concernées la halte-garderie L'Escale, rue Waldeck-Rousseau, et l'école Jean-Jaurès, rue Désiré-Granet. Voirie, gare des Ardoines. Pour finaliser les espaces publics de la gare et de la future ligne 15 du métro Grand Paris Express, des travaux sont en cours de réalisation depuis le 20 janvier pour une durée prévisionnelle de 10 semaines. En conséquence, la rue Léon-Geffroy est fermée à la circulation automobile entre les rues du Bel Air et Gabriel Péri. L'accès au parking des Ardoines se fait par la rue du Bel Air. Les cheminements piétons entre le parking et la gare sont modifiés et balisés. Sensibilisation, information sur le tri. Une campagne d'information en porte-à-porte sur le tri des déchets est actuellement en cours et se prolongera jusqu'au mois d'avril. Portée par la ville, le territoire et le syndicat intercommunal de traitement des déchets ménagers, elle vise à sensibiliser aux consignes de tri les habitants des habitats collectifs. Une démarche qui permet également d'informer les vitriaux sur la mise en place d'une collecte spécifique pour les déchets alimentaires. Aménagement. Prairie du Fort, cap sur les travaux. Au pied du fort d'Ivry, les travaux débutés en mai dernier se poursuivent pour permettre l'ouverture courant 2025 d'un nouveau parc, les Prairies du Fort. Après la phase de terrassement des sols, c'est sur le raccordement au réseau d'eau et d'électricité que les efforts se sont concentrés. Cela va nous permettre de viabiliser différentes zones du parc, à commencer par la loge du gardien et l'espace d'animation, explique Marine Duvivier, chef du service études et travaux à la direction Espaces Verts. Les premières plantations d'arbres débuteront en février avec, à certains moments, la possibilité d'impliquer les habitants. Au total, 195 arbres seront plantés dans le parc, ainsi que 16 pour reconstituer l'alignement de la rue des Carrières. Dans le cadre de ce projet, cette rue sera réaménagée sur un tronçon nord jouxtant le parc dès ce début d'année afin d'installer une piste cyclable, d'élargir le trottoir et ainsi de faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite. Pour respecter les normes de dimension en vigueur de la rue, il sera nécessaire d'abattre 15 platanes, dont certains sont affectés par des parasites tels que le chancre coloré et le félin tacheté. Enfin, il restera à réaliser les différents revêtements de surface et à poser le mobilier sur les espaces du parc. Le parvis, la prairie vallonnée avec agrès de fitness, la terrasse avec jeux pour enfants, le jardin pédagogique et l'espace d'accueil et d'animation. Afin de réfléchir aux usages de ce parc, les vitriaux avaient été associés dans le cadre d'une concertation en 2022 avec le conseil de quartier, l'EHPAD des Lilas, l'IME Suzanne Brunel et les enfants du centre de loisirs Henri Vallon. Financé par le département, la région, la métropole du Grand Paris, CDC Biodiversité et le Fonds Vert, les prairies du Fort et leurs 6 500 m² deviendront à terme le quatrième plus grand espace vert de la ville. Grand Paris Express, le métro se fait attendre. Le chantier de la ligne 15 sud du Grand Paris Express, commencé en 2015, affiche un nouveau retard. L'ouverture du tronçon qui concerne les deux gares Vitriotte, initialement prévue en décembre 2025, va être décalée à l'été 2026. L'épidémie de Covid-19 est une explication parmi d'autres des retards accumulés. Cette fois-ci, selon Jean-François Montels, président de la Société du Grand Paris, ce sont les essais et leur complexité permettant de s'assurer de la fiabilité et de la sécurité qui sont en cause. Gageons que ce retard soit le dernier pour cette ligne tant attendue par les vitriaux. Culture. Théâtre Jean Vilar, Clara Isée en haut de l'affiche. Haut les cœurs et les oreilles, le 8 février, Clara Isée illuminera le théâtre Jean Vilar avec Océanonox, son premier album puissant qu'elle a entièrement écrit et composé. Artiste multitalentueuse, elle chante en français, anglais et espagnol, tout en explorant des émotions profondes, grâce à sa voix androgyne et singulière. Entre puissance lyrique, poésie et audace, elle offre des chansons littéraires et universelles, empreintes de sensibilité et de vulnérabilité. Le concert affiche complet, mais inscrivez-vous en ligne sur la liste d'attente pour ne pas manquer cet événement. À 20h au Théâtre Jean Vilar, réservation sur théâtrejeanvilar.com. Bibliothèque Nelson Mandela à la découverte du ciel. L'univers et ses mystères s'invitent à la bibliothèque Nelson Mandela. Du 31 janvier au 31 mai, elle accueille l'exposition Tutoyer le ciel, un nouveau regard vers les étoiles. Une série unique d'images d'astrophotographie réalisées par les membres de l'association Le Télescope d'Ivry-sur-Seine. À l'occasion du vernissage vendredi 7 février, Les vitrieux sont invités à rejoindre le parvis pour observer le ciel à l'aide de lunettes astronomiques à partir de 20h. En parallèle, deux films seront projetés, Gravity au 3 Ciné le 7 février à 19h30 et Proxima dans l'auditorium de la bibliothèque le 8 février à 14h30. La deuxième semaine des vacances scolaires du 24 au 28 février, un planétarium sera accessible au public en présence de scientifiques. Une maquette de la Lune en relief et en mouvement empruntée au département sera également exposée à partir du 31 mars. D'autres initiatives se succéderont au mois de mars avec notamment une conférence de l'astrophysicien Michel Creuset et un atelier avec l'Exploradôme sur le thème des fausses informations en matière d'astronomie. Tutoyer le ciel, un nouveau regard vers les étoiles, vernissage vendredi 7 février à 20h pour adultes et enfants à partir de 10 ans jusqu'au 31 mai. UAPV rétrospective. Une rétrospective en hommage au travail de deux artistes autodidactes de l'UAPV, l'Union des arts plastiques de Vitry, sera exposée à la galerie municipale Jean Collet du 21 février au 7 mars. Le travail d'Yvonne et Pierre Confet, vitriaux depuis 1958, sera ainsi mis à l'honneur. L'occasion de retracer le fil de leurs œuvres réalisées depuis 1991, vernissage le 4 mars. Studio Théâtre, Chant du Cygne. Le Studio Théâtre accueille le spectacle Chant du Cygne, une expérience hybride mêlant théâtre, concert et performance autour du trouble de la dyslexie. Cette exploration ludique et sensorielle invitera chacun à prêter attention aux manières dont les mots peuvent faire sens. Du 7 au 10 février, 01 46 81 75 50. Sub Afrobox. Le Sub se mue en véritable tremplin musical pour des artistes en devenir. Une soirée placée sous la thématique de l'afrobeat et du R&B qui permettra aux talents de se produire sur scène. Un jury consacrera le meilleur artiste d'Afrobox le 8 février à 20h, 5 euros l'entrée. Patinoire Vitry Ice Trophy. Un nouvel événement organisé par la section patinage de l'ESV est attendu à la patinoire les 8 et 9 février. Il s'agit du Vitry Ice Trophy, une compétition de danse sur glace, en couple ou en solo. Plus de 150 participants issus de clubs de toute l'Île-de-France prendront part à cette compétition de haut vol, 37 rue Ampère. Galerie Jean Collet, plongée grinçante dans aux imaginaires hygiénistes. Installée à la galerie municipale Jean Collet, l'exposition Coco Sour transforme le White Cube immaculé de l'espace scénographique en un espace à salir. L'artiste contemporaine Victoire Gonzalves fait parler sa créativité et brise les codes de l'hygiène le temps d'une exposition. À travers ses œuvres saisissantes, elle interroge les normes imposées par la société sur les corps, leurs fluides et les récits publicitaires qui les façonnent. Coco Sauer parle de nos rapports au propre et au sale, raconte Thomas Lemire, commissaire d'exposition. Des gestes de violence que l'on s'impose vis-à-vis de nos sécrétions, du lien qu'on entretient avec notre plaisir et le corps des autres. Quel genre d'œuvre allez-vous y croiser? Des distributeurs de liquides qui contiennent au choix une solution hydroalcoolique ou un lubrifiant à la noix de coco, des sculptures corporelles moulées sur les proches de l'artiste, des serviettes qui se salissent au fil des jours. Coco Sauer risque d'intriguer, de déranger, et c'est bien là tout son objectif. On a envie que cette exposition bouscule, complète Thomas Lemire. Cette plongée sensorielle s'inscrit dans un cycle plus large sur l'hygiène, puisque l'exposition suivante, proposée par la galerie Les Lavandières, tournera aussi autour de cette thématique. Du 14 février au 6 avril, à la galerie municipale Jean Collet, 59 avenue Guy Môquet. Trois Ciné Robespierre, Ciné Junior. Jusqu'au 18 février, les Trois Ciné participent au plus grand festival de cinéma jeune public en France, Ciné Junior. En plus des projections organisées pour les classes des écoles de Vitry, une dizaine de séances seront ouvertes au public les mercredis, samedis et dimanches, ainsi qu'au début des vacances scolaires, au programme Projection d'une guitare à la mer, en sortie nationale, suivi d'un goûter, le 5, atelier philo autour de Toy Story, le 18. Retrouvez la programmation complète sur le site www.vitré94.fr. Dossier Hygiène et salubrité, agir pour le logement digne et la santé publique. Le logement indigne et dans certains cas insalubre est une problématique largement prise en compte à l'échelle locale. Source de stress, elle peut aussi avoir un impact sur la santé et nécessite des réponses adaptées. La ville accompagne ainsi propriétaires, locataires et bailleurs grâce au travail d'agents mobilisés sur le terrain. Elle développe également ses dispositifs et ses partenariats pour réduire les risques et améliorer les conditions de vie des vitriaux. Quelles sont les missions des inspecteurs hygiène et propreté de la ville? Quels dispositifs sont mis en place et étudiés? Quels sont les facteurs pouvant rendre un logement indigne ou insalubre? Comment réduire les risques de nuisances au quotidien? Pour un habitat digne, humidité, problème de canalisation, de ventilation ou d'électricité, pour lutter contre l'insalubrité, la ville met en place un panel de mesures pour accompagner les habitants concernés, dans le parc social comme dans le parc privé. En plus d'assurer la médiation entre locataires, propriétaires et bailleurs, des actions préventives sont lancées pour mieux encadrer les locations, soutenir les copropriétés en situation de fragilité et veiller à la qualité des futures constructions. Deux chambres en rez-de-jardin, sans fenêtre, des problèmes d'humidité, un chauffage dysfonctionnel et un propriétaire qui ne répond pas. En septembre dernier, le logement qu'occupe Adrien Hudin, sa compagne et ses trois enfants, a été déclaré insalubre par arrêté préfectoral. C'est le secteur hygiène de la ville qui a donné l'alerte. Depuis, j'attends une proposition de relogement, idéalement dans le parc social, mais tout ça prend un temps considérable, explique Adrien Hudin. Infiltration et ruissellement, canalisation défectueuse, manque d'aération. La salubrité, qui prend différentes formes, est caractérisée lorsqu'il y a une atteinte à la santé. Adrien Hudin en sait quelque chose, ses enfants ont développé de l'asthme, des difficultés respiratoires, sans compter les conséquences sur sa santé mentale, le stress et le manque de sommeil. Les conditions de logement de certaines familles sont encore désastreuses, affirme Luc Ladire, adjoint au maire en charge de l'accès au logement. L'an dernier, 142 signalements ont été effectués auprès de la ville pour des problèmes d'habitat. Pour chaque signalement, des inspecteurs de salubrité interviennent sur place pour établir un diagnostic. Taches de moisissure, auréoles au plafond, mauvaise évacuation des eaux. Chaque situation est documentée à l'aide de photos et objectivée grâce à des outils spécifiques, comme l'Humitest, qui permet de mesurer l'humidité. À l'issue de l'inspection, nous prenons contact avec le bailleur ou le propriétaire pour assurer une médiation et obtenir la réalisation des travaux nécessaires, explique Muriel David, inspectrice de salubrité. Cette première étape peut suffire à résoudre la situation, mais parfois, le lien avec les propriétaires s'avère compliqué, certains ne donnent pas suite aux demandes de travaux et laissent la situation s'aggraver. La ville peut alors actionner un autre levier en remettant un rapport à l'Agence régionale de santé pour demander la prise d'un arrêté d'insalubrité qui impose aux propriétaires la réalisation des travaux nécessaires. Enfin, dans le cas où des travaux ne suffisent pas, en cas de suroccupation du logement par exemple, des propositions de relogement doivent être formulées par la préfecture. Quelle que soit la situation, nous veillons à ce que la procédure suive son cours, mais ça va rarement assez vite pour les concernés, reconnaît Mohamed Abou Abdella, inspecteur de salubrité. Pour prévenir ces situations, de nouveaux dispositifs sont en cours de déploiement, à commencer par le permis de louer, qui doit encore faire l'objet d'un vote au conseil municipal et qui devrait, dans certains secteurs de la ville, contraindre les propriétaires à déclarer la mise en location de leurs biens auprès de la ville. Une visite sur place sera systématiquement réalisée par les services municipaux pour s'assurer que le logement en question n'est ni dégradé ni insalubre. C'est une manière d'avoir plus de visibilité sur le parc privé, explique Claire Moreau, chargée de mission Habitat privé et spécifique. C'est un dispositif attendu qui nous permettra de garantir aux locataires Vitrio des conditions dignes pour eux et leur famille, assure Luc Ladire. À travers la ville, 17 copropriétés, soit 994 logements, bénéficient par ailleurs du POPAC, le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des propriétés. Ce dispositif permet d'accompagner les copropriétés dans la gestion de leurs finances et dans leur mode de gouvernance. En assainissant les finances, on s'assure que la copropriété aura les moyens de réaliser les travaux nécessaires à temps, détaille Claire Moreau. Au sujet des futurs logements, qui doivent voir le jour, un travail est actuellement en cours avec les architectes de la ville, les promoteurs et les aménageurs pour formaliser une charte construction. Son objectif, faire en sorte que les logements à venir soient qualitatifs, pérennes et durables. Parmi les points d'attention identifiés figurent par exemple l'orientation et la ventilation des logements pour lutter contre l'humidité et le manque d'aération. La charte propose d'instituer le fait que les logements soient toujours multi-orientés pour maximiser la lumière et la ventilation naturelle, indique Sébastien Rattel, responsable du logement social au service Habitat. Trois questions à Rachid Edaïdj, conseiller municipal délégué à la résilience du territoire. Quelles raisons expliquent l'augmentation de logements dits indignes ou insalubres? Nous sommes dans une situation de forte tension autour du logement. Une véritable crise dont profitent des personnes mal intentionnées, des marchands de sommeil qui exploitent la détresse des autres, Nous sommes régulièrement alertés sur cette question qui génère de la souffrance avec des logements insalubres et des locataires en grande difficulté. Pour résoudre cette problématique, la ville dispose d'inspecteurs d'hygiène assermentés qui constatent les dégâts sur les logements et accompagnent les habitants dans leur démarche. Quels sont les leviers d'action et les dispositifs que la ville peut mettre en place? Nous souhaitons renforcer notre arsenal avec le projet d'instauration d'un permis de louer. Les futurs loueurs devront ainsi faire une demande d'autorisation préalable de location qui permettra aux agents de la ville de réaliser une inspection avant la mise en location. Si l'état du logement n'est pas satisfaisant, si des problèmes d'humidité ou d'aération sont constatés, par exemple, nous pourrons obliger le propriétaire à rétablir la situation et interdire la location. C'est un moyen d'anticiper et de prévenir les risques. En parallèle, la ville continue d'accompagner les personnes victimes du mal logement et mène un travail partenarial avec les bailleurs. Il s'agit d'impulser une dynamique pour entretenir le parc existant tout en préparant l'avenir à travers l'ambitieux projet de renouvellement urbain qui s'annonce. La présence de nuisibles est-elle un enjeu dont la ville se saisit? Sur la question des nuisibles, la municipalité a lancé un dialogue avec les bailleurs afin d'uniformiser les pratiques. C'est un enjeu dont chacun doit se saisir, notamment l'État, qui doit prendre ses responsabilités et en faire un véritable sujet de santé publique. La ville, à son échelle, tente de trouver des solutions. Nous portons par exemple un projet de lutte contre les punaises de lit qui devrait prochainement se mettre en place, mais c'est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas agir seuls. Des réponses face aux espèces nuisibles. Locataires ou propriétaires font parfois face à la problématique des espèces invasives ou nuisibles, dont la présence n'est pas forcément liée à la salubrité du logement, une présence qui peut entraîner diverses complications et à laquelle la ville, en lien avec propriétaires, locataires et bailleurs, tente d'apporter des réponses adaptées. Parmi les multiples facteurs à l'origine d'un habitat indigne, voire insalubre, la présence d'espèces animales nuisibles ou invasives demeure une source de préoccupation pour les habitants et engendre des actions conjointes menées par la ville, les bailleurs, les locataires et les propriétaires. La lutte contre cette problématique passe bien sûr par une occupation saine du logement, mais pas forcément. Les animaux ont besoin de ressources alimentaires, donc si le logement est maintenu propre et hermétique aux intrusions d'espèces nuisibles, cela atténue fortement le risque de prolifération, notamment le rongeur, assure Mohamed Abdou Abdella, inspecteur de salubrité de la ville. Quant à certaines espèces, leur présence n'a pas de rapport avec l'état du logement. Il n'y a aucune honte à signaler ces situations qui peuvent causer un fort mal-être et un enfermement social. Dans le cas des rongeurs, la vigilance et la mise en place de solutions sont essentielles, car ces animaux sont à l'origine de divers maux. Propagation potentielle de maladies, dégradation de l'habitat, risque sur la stabilité des bâtiments, etc. Soucieuse de combattre cette menace, la ville mène des campagnes de dératisation 2 fois par an dans les bâtiments communaux. Cela prend la forme d'un contrôle par le biais d'un placebo, sans recours aux produits actifs conformément à la réglementation, souligne Mohamed Abou Abdella. C'est uniquement lorsque la présence de rongeurs est avérée que le produit actif est utilisé. Lorsque la première campagne de l'année est en cours, la municipalité prend un arrêté pour signaler la campagne de dératisation à tous les propriétaires et les inviter à y prendre part simultanément. Ce sont les actions collectives et conjointes qui rendent l'opération efficace, ajoute Muriel David, responsable du secteur hygiène. Pour rappel, c'est aux propriétaires de se charger de la lutte contre les rats. D'autres espèces nuisibles nécessitent également des prises en charge régulières. C'est le cas des termites, mais aussi des cafards ou des blattes. Ces derniers apprécient la chaleur, émanent des gaz pouvant déclencher en cas de forte infestation, des crises d'asthme et peuvent entraîner des problématiques de stress et de phobie. Pour prévenir tout risque, les bailleurs sociaux font régulièrement intervenir des prestataires habilités à la désinsectisation. Mais là encore, chacun doit jouer le jeu et ouvrir sa porte pour rendre l'opération efficace. Une autre problématique a récemment fait la une de l'actualité, celle des punaises de lit. Importées dans le logement après un voyage ou issues de meubles de seconde main, elles ne sont pas vectrices de maladies, mais peuvent causer plaques urticantes et démangeaisons. Les locataires doivent respecter un protocole strict et surtout ne pas utiliser de produits chimiques vendus sur les marchés, alerte Christophe Achoury, responsable de la proximité à la Sémise, qui rappelle que le bailleur en question prend en charge le traitement des punaises de lit à 100%. Dès que cette problématique est signalée, la ville peut jouer un rôle de conseil et d'information. La gestion de cette question des nuisibles nécessite une collaboration entre les acteurs. C'est pour cela que nous avons initié un travail avec les bailleurs à travers des réunions pour réaliser un état des lieux, connaître les pratiques de chacun et mettre en place des actions collectives, rappelle Muriel David. La ville compte également renforcer son arsenal de prévention et d'action. Un plan de communication avec des panneaux et des animations en pied d'immeuble pour sensibiliser les vitriaux va se déployer. La ville prévoit également de se munir d'appareils à vapeur qu'elle mettra à disposition des habitants concernés. Enfin, la ville mise en place d'un système de détection canine sera proposé aux bailleurs. La question des nuisibles ne peut se circonscrire au logement et s'étend de manière générale à l'espace public, avec notamment les espèces invasives. C'est le cas avec des problématiques plus récentes, comme celles posées par la prolifération des moustiques tigres depuis quelques années. Ceux-ci sont vecteurs de maladies comme la dengue, le Zika ou le chikungunya. Pour prévenir tout risque, chacun peut agir en évitant les points d'eau stagnante qui servent de refuge aux larves. La ville peut quant à elle procéder à des désinsectisations sur ses sites, mais pas à grande échelle. C'est l'Agence régionale de santé qui en prend la décision, uniquement si un cas d'une des maladies citées est détecté, souligne Muriel David. Ces dernières années, un autre insecte a fait son apparition en France, le frelon asiatique, dont les piqûres peuvent entraîner, en cas d'allergie, de graves complications. Si la précaution recommande de ne pas s'approcher à moins de 5 mètres d'un nid, la ville ne se contente pas d'un simple message d'alerte. Elle a fait le choix, alors que la réglementation ne l'impose pas, de traiter systématiquement tous les nids de frelons découverts dans l'espace public, une approche volontariste qui illustre la politique municipale sur cette question épineuse, afin de préserver la biodiversité tout en prévenant les risques sanitaires. Opération Furet. C'est un procédé qui a fait ses preuves et auquel la SEMIS a eu recours à plusieurs reprises ces dernières années, la dératisation à l'aide de furets. Le bailleur social a ainsi fait appel à un prestataire pour éviter la prolifération de rongeurs sur la dalle Robespierre ainsi qu'à Colonel Fabien. Les moyens plus traditionnels ne fonctionnaient pas, et il nous fallait traiter cette problématique de manière écologique, sans recours à des produits chimiques pour la sécurité de tous, explique Mohamed Zberi, responsable de ces deux secteurs à la SEMIS. Circonscrit sur une zone précise, le furet, prédateur naturel, peut ainsi déloger les rats des galeries qu'ils occupent, une opération qui porte ses fruits, d'autant que l'odeur laissée par le furet limite le retour des rongeurs. On réfléchit à mener à nouveau ce type de dératisation si le besoin s'en fait ressentir, poursuit Mohamed Zberi. En parallèle, nous continuons à reboucher les galeries et à mener des traitements chimiques si cela est nécessaire et possible. Les bons gestes à adopter. Présence de rongeurs, de traces de moisissures liées à l'humidité ou prolifération de moustiques tigres pendant la période estivale. Comment limiter ces nuisances qui peuvent rendre le quotidien difficile? Voici les petits gestes et les bonnes pratiques que chacun peut adopter afin de réduire les risques et de maintenir un logement plus accueillant. Pour éviter la présence de rongeurs, limitez les ouvertures et les points d'accès au logement, enfermez vos ordures dans des sacs, évitez l'accès à la nourriture pour animaux et aux points d'eau stagnantes. Pour éviter les moisissures, aérez régulièrement le logement, même l'hiver, n'obstruez pas les grilles d'aération, nettoyez vos ventilations. Pour éviter la présence de moustiques, éliminez les endroits où l'eau peut stagner, videz les récipients, ne laissez pas l'eau des plantes stagner. Portrait, Simone Roger, l'aidante récompensée. Bénévole au sein de l'association AGV 94, qui accompagne à domicile les personnes en perte d'autonomie, Simone Roger est une assistante sociale à la retraite très active, un engagement qui lui a d'ailleurs valu de recevoir la médaille de l'Ordre national du mérite, rencontre avec cette vitriote de toujours. Un lundi matin gelé de la fin décembre, dans les locaux d'AGV 94 au cœur de la cité Robespierre, Simone Roger, 78 ans, membre du conseil d'administration de l'association, se raconte sans chichi. Nous sommes à quelques enjambées de la rue de la Petite Fontaine, où elle a grandi avec ses parents. L'un était fermier agricole en Seine-et-Marne, l'autre était cuisinière dans une ferme, immigrée slovaque. Le quartier a beaucoup changé, mais je m'y sens toujours bien. Je me souviens du luxe lorsqu'on a été relogé au 113 rue Camille Groult. On avait enfin une salle de bain, explique l'assistante sociale à la retraite qui n'a jamais quitté Vitry. Enfin, si, à partir de la seconde, il a bien fallu se rendre chaque jour à Paul Valéry, dans le 12e arrondissement de Paris, en bus. Le 182 et le PC, car à l'époque, la ville ne comptait pas encore de lycée. La jeune femme, décidée, a déjà ficelé son projet professionnel en se renseignant au CIO, le Centre d'information et d'orientation. Ses parents, travailleurs mais n'ayant pas fait d'études, la soutiennent sans ciller. Elle veut s'orienter dans le social, si possible auprès d'enfants placés. Je ne sais pas pourquoi cette idée m'est venue, mais j'étais très sûr de moi. Bonne élève, elle réussit ses études haut la main, puis gravit les échelons de sa profession un à un. Un seul changement par rapport à l'itinéraire qu'elle avait prévu, celui d'aider les personnes âgées plutôt que les enfants. Mon premier stage avec le KB en hospitalisation à domicile m'a convaincue. Elle rencontre son mari, dessinateur industriel, à l'anniversaire d'un ami commun près de la gare. Ils se marient 3 ans plus tard et achètent un terrain dans le centre-ville pour reconstruire leur maison. Elle ajoute pragmatique, lorsque je suis devenue maman, je travaillais à Charlefoix, et cela était bien pratique de pouvoir mettre mes garçons à la crèche de l'hôpital. Cette qualité d'organisation lui a sans doute valu de gérer des situations complexes. Mise en place du nouveau service d'hôpital de jour de Charlefoix, expérience de cadre dans plusieurs grands hôpitaux comme Henri Mondor ou Émile Roux, reprise d'études à 37 ans, poste de responsable du service social du personnel au siège de la PHP, j'ai toujours été au bon endroit au bon moment, commente modestement celle qui, une fois la retraite venue, a souhaité donner de son temps pour l'association AGV 94. Une structure composée de plus de 300 professionnels qui aident les personnes âgées ou malades dans leur vie quotidienne et apportent des soins infirmiers parfois nécessaires. Je me suis naturellement engagé dans le bureau de l'association en mettant mes connaissances du secteur et mon réseau à profit. Mais aujourd'hui, on manque tellement de moyens et de personnel, lance-t-elle, toujours aussi concernée par son sujet. Comment garder la pêche quand on travaille dans un secteur en crise? Simone, alerte et élégante, répond. J'ai eu une vie de famille riche, beaucoup d'amis. Puis j'ai souvent voyagé, notamment pour découvrir la culture slovaque. J'ai aussi pris plaisir à faire de la danse folklorique, puis du sport avec l'ESV, rando, yoga, aquagym. Maintenant, je suis passé à des activités encore plus douces avec le CCAS. Après tout, vieillir harmonieusement est une question d'adaptation, et qui d'autre que Simone pourrait mieux savoir s'y prendre? Bon plan. Le combat d'une vie, Guy Laberty. Ancien élu municipal, Guy Laberty publie son autobiographie Anticolonialement vôtre. Cette figure politique du Parti socialiste unifié, dont il fut secrétaire national, déroule le fil d'une vie dédiée à la solidarité internationale. Un engagement qui débute dès ses années étudiantes passées sur les campus de Bordeaux, ancien port esclavagiste, et qui se poursuivra tout au long de son parcours. Au gré de ses rencontres avec Thomas Sankara, Laurent Gbagbo ou Jean-Marie Tjibaou, de son travail avec la Fondation Jean Jaurès ou de ses compositions musicales, Guy Laberty prône la libre autodétermination des peuples, un combat d'actualité alors que l'héritage de l'Empire colonial français est toujours bien visible en Afrique ou dans les dom-toms et que ses stigmates font trop souvent la une de l'actualité. Anticolonialement vôtre aux éditions Cartala, 25 euros, séance de dédicace au mot retrouvé le 13 février à 19 h. L'Imprévu, meilleur bistrot d'Île-de-France, établissement emblématique et familial de Vitry. L'Imprévu a été récompensé du prix du meilleur bistrot de la région, une distinction inattendue qui a ravi toute l'équipe, en premier lieu le gérant, Laurent Roucousse. C'est Yves, un client libraire, qui nous a inscrits. On a été élu parmi les 400 bistrots inscrits, un vrai travail d'équipe et une grande fierté pour Vitry et le travail fourni depuis 1968 et notre arrivée ici. L'Imprévu, c'est le bistrot auvergnat éternel, celui où patrons et ouvriers prennent le café au comptoir ou déjeunent pour un menu fait maison à 19 euros, entrée plat dessert. C'est le parlement du peuple, M a rappelé le patron. Cette victoire nous a amené une grande visibilité. Prochain défi, le concours international du meilleur œuf mayonnaise, une nouvelle coupe à décrocher en novembre pour venir compléter la galerie de récompenses de notre bougnat vitrio préféré. L'Imprévu, 94 avenue Anatole France, téléphone 01 46 72 38 01. Les coups de cœur de la bibliothèque. Film Marcello Mio de Christophe Honoré. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Chiara. Elle est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve, et le temps d'un été, chahutée dans sa propre vie, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père. Elle s'habille désormais comme lui, parle comme lui, respire comme lui, et elle le fait avec une telle force qu'autour d'elle, les autres finissent par y croire et se mettent à l'appeler Marcello. Christophe Honoré interroge ici le passage de la fiction à la vie quotidienne, imaginant Chiara Mastroianni prenant à la lettre les références incessantes à ses parents, devenant la revenante de son père. Disque Les Nos d'Arnaud Dolmen. Le batteur-compositeur guadeloupéen émérite Arnaud Dolmen revient avec un troisième album, Leno, en duo avec son complice de longue date, le talentueux pianiste brésilien Leonardo Montana. En 12 titres, le duo parvient à constituer un mélange audacieux et rythmé, une sorte de kaléidoscope musical foisonnant, où les inspirations des deux musiciens s'enchevêtrent avec maestria et vous plongent dans un ailleurs onirique, un album moderne où le piano, batterie, chœur se suffit à lui-même. Chronique. Vœux aux vitriots festifs et engagés. Le 25 janvier, la ville célébrait la nouvelle année avec les vœux du maire dans les quartiers. Un moment festif, placé sous le signe des 100 ans de l'élection de la première équipe municipale ouvrière. Temps fort de ce début d'année, les vœux de la municipalité ont animé différents quartiers de la ville. Le maire, Pierre Belliocq, accompagné d'élus municipaux, a sillonné la ville pour aller à la rencontre des vitriots. Il en a profité pour rappeler les principes de solidarité que ses prédécesseurs de la municipalité n'ont eu de cesse de défendre. Face à l'instabilité nationale et à la crise économique, la ville est devenue le dernier rempart. Ce sont les services municipaux de proximité qui viennent soutenir les habitants face aux difficultés. Pour l'occasion, chaque quartier évoquait un Vitry à travers les âges. Années 30 et style cabaret, au nouveau Gare au théâtre, rock des années 60 au gymnase Langevin et nostalgie des années 90 à Balzac. Devant les figures impressionnantes de Double Dutch de la Jump Academy, les familles étaient ravies. Les enfants s'amusent et on passe un super moment. Enfin, des animations à l'hôtel de ville ont permis de conjuguer présent et avenir, grâce notamment au spectacle d'un magicien mentaliste. Dans chaque lieu, une exposition était installée rappelant les combats et progrès menés depuis 100 ans. C'est important de rappeler l'histoire des luttes et de les faire perdurer, se réjouit Joëlle, habitante de la commune depuis 1979. La journée a aussi permis de se projeter sur les réalisations attendues en 2025. On va ouvrir une nouvelle école, groupe scolaire du Bel Air, de nouveaux parcs, Prairie du Fort et réaménagement du square Balzac, mettre en place la vidéo-verbalisation, installer un marché derrière la gare RER, énumère Pierre Belliocq, et en cette période troublée, avec des conflits aux quatre coins du monde, il a tenu à le rappeler, à Vitry, on défend la paix. Atelier retraité, de l'art, petit format. Coupez, pliez, dessinez, écrivez dessus, faites comme vous voulez. Un atelier proposé par le service Vie sociale des retraités s'est tenu à la galerie municipale Jean Collet, mercredi 22 janvier. Il était animé par l'artiste Victor Pueyo, candidat au prix de peinture novembre à Vitry, dont l'exposition se tenait du 30 novembre au 28 janvier, avec son œuvre Table aux objets et grenades, une huile sur papier cigarette. Un support aussi original que fragile, que les participants ont appris à manier pour créer des œuvres micro-format. Une fois terminées et suspendues devant une fenêtre, les miniatures prennent une toute autre dimension, sous le regard admiratif de leurs auteurs. La lumière de l'extérieur leur donne plus de profondeur, soutient le peintre. Quelques travaux sont ensuite collectivement sélectionnés puis installés sur une maquette de salle d'expo. L'immersion est réussie, voilà les retraités dans la peau de Chloé Poulain, la commissaire d'exposition de cette 56e édition de novembre à Vitry. Zoom, service public. Le conservatoire de musique, plus qu'une école. Fondé en 1961, le conservatoire de musique de Vitry continue d'accompagner les vitriots, enfants comme adultes, dans leur pratique artistique. Une ouverture culturelle accompagnée par plus de 50 professeurs de musique passionnés et investis. Ici, c'est un vrai laboratoire artistique et pédagogique, avec une vraie identité, se réjouit Indiana Bloom, professeure de flûte traversière au Conservatoire de musique. Équipement culturel phare de la ville, intégré aux écoles municipales artistiques, le Conservatoire propose une quarantaine de disciplines, une mission menée grâce à une équipe enthousiaste qui privilégie un enseignement axé sur la pratique. L'idée est de mettre le plus vite possible les élèves en situation de jouer sur scène ou en groupe, précise Laure Dumoulier, directrice adjointe du conservatoire, par ailleurs violoniste. C'est ainsi que les flûtistes de Vitry jouent régulièrement avec ceux d'Ivry, notamment lors du festival d'orchestre de flûte qui existe depuis 10 ans. Pierre Pasquis, professeur de batterie, propose quant à lui certains de ses élèves à se produire lors du Festi Jazz, événement phare de la programmation vitriote, un grand rendez-vous qu'il prépare actuellement puisque la prochaine édition a lieu début mars. De nombreux projets se mettent ainsi en place avec des professeurs en chef d'orchestre. C'est notamment le cas de Sophie Aupier-Valin, professeure d'accordéon qui a adopté la méthode pédagogique d'Al Croz, associant les mouvements corporels et musicaux. Épanouie dans son enseignement, Indiana Bloom retrouve dans les projets proposés par le conservatoire les valeurs d'exemplarité et de démocratisation de la pratique musicale. Cela se traduit notamment avec le festival Claude Elfer, qui réunit des professionnels très pointus et talentueux, tout en offrant à nos élèves des temps de représentation. En plus, beaucoup de concerts sont gratuits et accessibles à tous. Cette volonté de démocratisation se retrouve dans la tarification des cours en fonction du quotient familial. Le conservatoire est ouvert à tout le monde, insiste Laure Dumoulier. Pour éveiller la curiosité des plus jeunes et faire connaître ses activités, l'établissement propose également des temps de présentation d'instruments pour les publics scolaires et les invite à assister aux répétitions de l'orchestre symphonique. Certains concerts sont ainsi délocalisés dans des EHPAD, à l'hôpital Charles-Foix, au Macval, autant de passerelles qui servent de vitrine à cette structure et à ceux qui la portent, garant de l'éveil culturel et artistique de nombreux vitriots. Musique contemporaine, le festival Claude Elfer. La 7e édition du festival Claude Elfer aura lieu en mai prochain. Cette biennale du conservatoire, initiée par Alexia Guillaumard et Javier González-Novales en 2011, rend hommage à Claude Elfer, figure majeure de la musique contemporaine qui a inspiré plusieurs générations de musiciens. Depuis sa création, le festival laisse une grande place à la création contemporaine, avec des compositeurs et artistes invités, tout en permettant aux élèves du conservatoire de jouer dans un contexte professionnel. S'étalant sur 5 à 8 soirées, le festival allie aussi la mise en scène, les jeux de lumière et la danse au concert. Il est aujourd'hui l'un des seuls festivals du département consacré à la musique contemporaine et demeure un temps fort de l'agenda culturel de la ville. Itinéraire, 100 ans du centre municipal de santé, un siècle de réinvention. En créant un dispensaire municipal en 1925, la nouvelle majorité, issue d'une liste ouvrière, ouvrait l'accès aux soins aux habitants démunis. Vitry a ainsi inventé un équipement qui a inspiré nombre d'autres villes. Cette création s'avérera capable de durer, de se transformer, jusqu'à devenir l'actuel centre municipal de santé Pierre-Rouquès. Une structure forte d'une offre médicale et paramédicale complète, avec des équipements de pointe proposés en tiers payant. En 1925, se soigner à Vitry n'est pas chose aisée. À cette époque, la ville a mué rapidement de bourgade agricole en ville ouvrière. L'eau courante rare, les rues non bitumées et boueuses, et l'évacuation hasardeuse des déchets sont propices aux infections. Tuberculose, pulmonaire, diphtérie. Les rares médecins de la ville sont souvent trop chers pour la population, le plus souvent de conditions modestes, et les hôpitaux les plus proches se situent à Paris. Or, cette année-là, une liste municipale portant les aspirations de la population ouvrière de la ville remporte les élections. Le nouveau maire, Pierre Périer, est pharmacien, priorité à la santé. Un jeune docteur de Vitry, Robert-Henri Hazeman, futur chef de cabinet du ministre de la Santé du Front populaire, est nommé à la tête du bureau d'hygiène communale. Chiffres et études à l'appui, il prône la création d'un centre accessible aux habitants démunis, associant soins, dépistage et prévention. Le 5 juillet, le conseil municipal vote la création d'un dispensaire, soulignant la nécessité d'un dispensaire public où la population de Vitry pourra profiter de consultations et de soins qu'elle ne trouve actuellement qu'à Paris. La commune acquiert une propriété au 10 rue Montebello et l'équipe d'une unité de radiologie pulmonaire, d'un laboratoire de bactériologie et de services de consultation nourrissons enfants accidentés du travail. En 1926, le centre est opérationnel. Pour y accéder, les patients peuvent, selon leur situation de précarité, disposer d'une carte rouge, consultation, visite de médecin et médicaments gratuits, jaune, consultation et médicaments gratuits, ou bleu, consultation gratuite. Un acte médical coûte 4,50 francs contre 20 francs en ville, une concurrence plutôt bien acceptée par les médecins de ville, tant il est admis que les patients du dispensaire n'auraient pas les moyens de consulter autrement. Des initiatives similaires, inspirées du centre de Vitry, sont menées dans d'autres banlieues. En 1929, le dispensaire est doté d'une plage artificielle pour stimuler la croissance des enfants chétifs. On croit alors beaucoup à l'exposition au soleil pour se soigner. Dans une salle recouverte de sable, avec peinture bronze-aluminium au mur, des rayons ultraviolets et infrarouges sont diffusés. On nous mettait des lunettes et on jouait dans une chambre avec du sable très fin, se rappelaient les jumelles Paulette et Yvonne, nées en 1924 dans Vitry le Mensuel de novembre 2007. Le dispensaire grandit. De 21 000 actes médicaux en 1930, il passe à 100 000 en 1966. En 1931, il déménage aux 12 rues de Cussy, puis en 1955 à l'angle Henri-Barbus-Montebello. Avec 40 médecins, il propose alors radiologie, soins et prothèses dentaires, rhumatologie, cardiologie, et se nomme désormais Centre municipal de santé Pierre-Rouquès, du nom du chirurgien à l'origine d'une douzaine de CMS dans l'Est francilien. Entre-temps, en 1945, un organisme national a été créé pour prendre en charge les soins médicaux, la Sécurité sociale. Le CMS reste essentiel, il propose une offre locale complète de soins médicaux, sans frais à avancer pour les patients grâce aux tiers payants. La création progressive d'autres structures de santé sur la ville, protection maternelle et infantile, centre médico-psychopédagogique, centre de planification familiale, clinique des Noriets, ne lui ôte pas non plus son attrait. Il continue de se déployer en suivant les évolutions techniques et les besoins de la population, mammographie, dépistage du sida, orthodontie. En 1995, il enregistre 65 000 consultations, dont 13 000 au service dentaire. En 2007, la ville finance entièrement, à hauteur de 8 millions d'euros, un nouveau bâtiment, moderne et aux normes environnementales, accessible aux personnes à mobilité réduite, avenue du Général de Gaulle. La surface est doublée. Fort d'un laboratoire d'analyse, de 18 spécialités médicales et paramédicales, kinésithérapie, d'équipements de pointe, accueillant les consultations de garde du SAMI, il vient en plus d'être doté d'un nouveau système de radiologie numérique. Dans notre monde à évolution rapide, qui sait à quelle mutation future il est encore voué? Tribune des groupes, espace de libre expression réservé aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal. Les auteurs assument les propos tenus dans cette tribune. La directrice de la publication est personnellement responsable de leur contenu. Groupes communistes, républicains et citoyens, nos services publics ne sont pas une variable d'ajustement. Malgré la chute de son prédécesseur, il semblerait que le gouvernement Bayrou n'ait pas retenu la leçon. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, fraîchement désigné par le président de la République, a fait le choix de poursuivre les logiques d'austérité qui triomphent à la tête de l'État depuis des décennies. Les concessions censées avoir été faites aux collectivités sont d'ailleurs toujours aussi risibles. Certes, on baisse les exigences en matière de ponction des dotations, mais dans un contexte où on a déjà supprimé tant de leviers et laissé une crise sociale s'installer dans des territoires populaires comme Vitry-sur-Seine. Cette décision faussement comptable ne sort pas de nulle part. Elle est le produit d'années de néolibéralisme débridé, d'application de directives européennes et d'opposition virulente au socle de conquis sociaux de notre République et du Conseil national de la Résistance. Les marges de manœuvre se resserrent et on voudrait imposer aux Vitriots de faire des choix délétères. Devrions-nous choisir entre fournir une éducation de qualité à notre jeunesse ou nous battre pour des logements dignes pour tous? Devrions-nous opposer les conditions de travail de nos agents et les attentes de nos concitoyens? À Vitry-sur-Seine, cette fatalité mortifère ne saurait être acceptée. Nous ambitionnons bien plus que d'être de simples gestionnaires d'une ville dortoir au service des intérêts financiers. Au contraire, par son service public municipal, Vitry-sur-Seine est bien plus qu'un lieu de passage pour ses habitants. Avec ses écoles, équipements sportifs et culturels, Vitry-sur-Seine est une ville qui n'a pas abandonné la notion de solidarité. Pour le groupe des élus communistes, républicains et citoyens, l'austérité n'est ni une fatalité ni une fatalité. Si nous continuerons à ambitionner un service public exigeant et de qualité, devant œuvrer avec des moyens limités, nous n'oublions pas la bataille politique à venir. Ludovic Lecomte, groupe communiste, républicain et citoyen, Hôtel de Ville. Groupe socialiste et citoyen, le commerce de proximité, une priorité pour Vitry-sur-Seine. À Vitry-sur-Seine, la municipalité a placé la redynamisation et la diversification de l'offre commerciale au cœur de son action. Face aux défis du commerce moderne, essor du e-commerce, mutation des habitudes de consommation, la ville a su réagir avec une politique volontariste et ambitieuse. Préemption commerciale, une épicerie bio locale, une fromagerie, etc. La boutique éphémère, le guichet unique des commerçants, les dispositifs de soutien aux porteurs de projets, un soutien de tous les instants durant la Covid-19, la rénovation de la halle du 8 mai 1945, la collaboration avec l'association de commerçants, les partenariats avec la CCI sont autant d'actions s'inscrivant dans cette volonté audacieuse. L'objectif est clair, offrir aux Vitriots une offre commerciale diversifiée et de qualité. C'est pourquoi la majorité municipale s'engage au profit du commerce de proximité. Ce dernier est essentiel au quotidien dans la vie de notre commune. Les commerces de proximité animent nos quartiers, renforcent le lien social et contribuent à une ville dynamique et agréable où il fait bon vivre. Chaque quartier doit pouvoir répondre aux besoins de ses habitants en favorisant les circuits courts et une consommation responsable. Soutenir le commerce local, c'est aussi agir pour une ville plus durable. Moins de déplacements, plus de liens humains, une économie locale renforcée, autant d'atouts pour une ville résiliente et solidaire dans laquelle s'inscrit Vitry. Ce mandat est marqué par des progrès importants et non négligeables, mais le travail continue. Le groupe socialiste et citoyen reste mobilisé avec l'ambition de construire une ville où le commerce de proximité est une véritable richesse partagée, où chaque Vitriot peut profiter des biens et services dont il a besoin. Ensemble, soutenons nos commerçants, fréquentons nos boutiques et faisons vivre Vitry-sur-Seine. Valentin Hyargues, groupe socialiste et citoyen, Hôtel de Ville. Groupe Europe Écologie Les Verts, droits fondamentaux, Vitry aux côtés de ses résidents étrangers. Depuis plusieurs années, le renouvellement des titres de séjour est devenu un véritable parcours du combattant pour de nombreux résidents étrangers. La dématérialisation des démarches, loin d'alléger les procédures, a accentué la fracture numérique et plongé les demandeurs dans des situations de grande précarité. Délais interminables, communication opaque, absence de guichet physique, cette paralysie administrative a des conséquences graves sur la vie des personnes concernées, perte d'emploi, de bourse, d'études, difficulté à accéder aux prestations sociales et aux droits en matière de santé. À Vitry, nous refusons de rester spectateurs face à ces injustices. La ville est pleinement engagée aux côtés des habitants confrontés à cette réalité. Lors du conseil municipal d'octobre dernier, un vœu a été adopté pour interpeller l'État sur l'urgence de la situation. Nous demandons des moyens humains et matériels supplémentaires pour les préfectures, la réouverture des guichets physiques et des garanties permettant d'éviter les ruptures de droits pour les demandeurs. Notre mobilisation ne s'arrête pas là. Rassemblement devant la préfecture, soutien via le CCAS et action en partenariat avec les associations locales témoignent de notre détermination à défendre les droits fondamentaux de tous les Vitriots, quelle que soit leur origine ou leur situation. J'invite la municipalité de Vitry-sur-Seine à prendre l'initiative d'organiser une réunion avec tous les maires du Val-de-Marne afin de discuter de cette situation urgente et de trouver des solutions communes. Redonner un visage humain à l'administration est une exigence républicaine. Il est impératif de garantir une égalité d'accès aux services publics et de préserver la dignité de chacun. Vitry continuera à se battre pour que ces valeurs trouvent un écho dans les politiques nationales. Ensemble, nous pouvons faire avancer les choses. Rachid Edaïdj, Groupe Europe Écologie Les Verts, Hôtel de Ville. Courriel eelv-elu-vitry-sur-seine@googlegroups.com. Groupe Vitry Rassemblé, la gauche communiste, écologiste et citoyenne, les locataires HLM se rebiffent. Manifestation contre Val-de-Vie, résistance à la démolition du bâtiment Robespierre, R10 de la Semise, mobilisation dans la cité Camille Blanc, quartier du 8 mai. Partout, les locataires se lèvent pour défendre leurs droits. Leur colère est profonde face à la dégradation continue des conditions de vie dans nos cités. Entretien négligé, réparation en retard, infiltration et fissures ignorées, panne de chauffage répétée, coupure d'eau chaude intempestive et absence d'interlocuteurs accessibles. À ces mots s'ajoute une autre réalité, la hausse incessante des loyers. Ce sentiment d'abandon est renforcé par le manque de dialogue des bailleurs et de la municipalité. Les locataires refusent de rester silencieux. Une question résonne avec force, pourquoi les cités existantes ne bénéficient-elles pas des aides publiques pour améliorer le quotidien des habitants? Comment justifier qu'on abandonne et démolisse des logements malgré une crise majeure du logement, tout en bétonnant les ardoines et en construisant du neuf à grands frais près du futur métro? Cette absurdité ne peut plus être acceptée, il est temps de renverser les priorités. Nous ne pouvons pas continuer à financer des projets comme celui des Ardoines avec l'argent des Vitriots, tout en ignorant les conditions de vie dégradées dans les cités actuelles. En intégrant l'OPH dans Val-des-Vies et la Semise, dans une société anonyme nationale, M. Belliocq a sacrifié nos outils de proximité, perdant ainsi la main sur la politique de l'habitat. Vitry doit retrouver un outil local du logement public. Avec le collectif citoyen L'Esprit Vitry, avec les locataires et leurs associations et avec toutes les forces de gauche attachées au droit au logement, je m'engage à mener ce combat. Ensemble, nous continuerons à défendre un toit digne, accessible et durable pour toutes et tous. Aussi note Mimi, groupe Vitry Rassemblé, la gauche communiste, écologiste et citoyenne. Groupe Changeons Vitry en mieux, nous sommes la richesse de notre ville. Alors que j'écris ce texte, nous partageons nos bons vœux. Et les miens, comme ceux de Vitry en mieux, sont sincères et chaleureux. Que 2025 nous soit festive, citoyenne et militante. Souhaitons la santé à tous les vivants et à la planète. En ces temps chahutés, dans l'incertitude d'un monde chaotique et de sociétés qui se donnent des coups de coude, plutôt que de se serrer les coudes, j'ai fait appel à deux grands hommes, deux piliers de notre socle commun. Aussi appelons-nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Stéphane Hessel. L'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie à découvrir, à orienter, à construire. Albert Jacquard. J'ajouterai, encouragez-vous. Il va nous falloir du courage, ce coup de la rage et ce coup de la rage. Le courage de se manifester, d'intervenir et d'agir en refusant que tout se défasse. Le courage de se mobiliser. Le courage de convoquer le passé et d'enrichir la terre. Le courage de rénover plutôt que tout changer. Le courage de créer de vraies richesses sans idolâtrer l'argent. le courage d'écouter la sagesse des anciens, le courage de faire prospérer nos acquis, le courage d'avoir de l'espérance et d'y croire toujours, le courage de distinguer le bien du mal, le courage de ne pas déifier la nature, notre allié, de respecter ses cycles et d'honorer ses offrandes, le courage d'être responsable, raisonnable et durable. Souhaitons-nous une bonne année d'indignation pacifique, d'engagement citoyen et de courage indéfectible. Plus que jamais, la différence doit être la norme pour que chacun, en trouvant sa place, soit à la fois leader, serviteur, au service de tous et des plus vulnérables. Devenons des guerriers pacifiques. Riyad Salem, groupe Changeons Vitry en mieux, site vitryenmieux.org. Groupe Vitry à venir, la municipalité pavoise, 100 ans de démagogie. Monsieur le maire Belliocq, en vantant 100 ans de gestion populaire, vous taisez 100 ans de méthode communiste. Impossible, il est vrai, de fêter aujourd'hui Lénine, Staline, si l'on est attentif au sort des populations qu'ils meurtrirent. Vous masquez l'emprise de votre idéologie qui fit fuir des entreprises vitriotes comme SKF vers des villes où elles purent vivre et créer d'autres emplois. Bilan, emplois perdus et friches à revitaliser. Votre communication invasive est un trompe-l'œil, payé par les vitriots. Aujourd'hui, le bilan de vos 100 ans de démagogie est désastreux. Urbanisation incohérente, densification et plan d'urbanisme irraisonné, ZAC aux immeubles vertigineux, îlots de chaleur, impact carbone, diminution du ratio espace vert par habitant au profit du béton, disparition de jardins et pavillons dans tous les quartiers, et la petite Saussaye bétonnée, elle aussi. Vous entassez des habitants plus nombreux dans une ville moins hospitalière. Gestion dégradée de l'habitat, aujourd'hui même indigne jusqu'aux logements sociaux. Les pétitions répétées des locataires le montrent. Gestion de l'emploi infructueuse. Les entreprises créées, employant très peu de personnes, ne masquent pas la fuite de centaines d'emplois des entreprises parties. Votre politique idéologue n'incite pas à en recréer sur la ville au moins autant. Augmenter les emplois municipaux fut sans effet. Le mécontentement vitriot trahit votre incapacité à rationaliser et moderniser la gestion des tâches. Démocratie fictive, nulle prise en compte des oppositions, communication propagandiste, invasive, journaux, sites, affichages, concertation pipeau pour entériner des décisions déjà prises, noms de rue, plan vélo. Vous prétendez défendre les plus démunis, mais ils ne sont pas plus heureux à Vitry qu'ailleurs. Ici, votre démagogie les berce d'illusions pour le moment. En 2026, vous n'offrirez toujours qu'un trompe-l'œil. Nous proposons un autre chemin pour l'épanouissement de Vitry dans une vraie démocratie. Alain Flattet, Union indépendante non affiliée et divers droites, courriel contact@vitryavenir.fr, site vitryavenir.fr. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Vitry le mensuel.